sous le béton, la sève. Un podcast produit par l'ADEAC. Avec les voix de Marc-Henri Boisse et Emma Deschandolles. Épisode 3.
Près des places visibles, voici les lieux que l'on préfère tenir à l'écart des regards. Là où l'on coupe sans public. Là où les tronçonneuses travaillent à l'abri des indignations trop bruyantes. Un parc entier a disparu, pas de fanfare, pas de grande annonce, juste un silence. Puis des fondations. Face à ce qui fut un refuge d'arbres et d'ombres, un habitant se souvient. Il parle de ce parc comme on parle d'un lieu qu'on aimait et qu'on ne reconnaît plus.
Je suis Monsieur Melka, le président de la résidence Jeanne d'Arc II. La résidence, elle est entre la rue du Maréchal Leclerc et la rue du Général Georges Patton. Cette résidence, elle a été faite en 87. Je l'ai vu naître. En face de cette résidence, il y a beaucoup de terrain, des arbres. On a des pies, on a des merles, on a des moineaux, on a des corbeaux, naturellement. Ils sont de partout, ceux-là. Et tout. Mais avant, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Puisqu'il y avait à peu près une dizaine d'arbres. Entre les odeurs et les oiseaux, nous, on a été un peu au paradis. Un peu comme quand je vais chez mon épouse dans l'île de Beauté, c'est formidable. Quand vous vous levez, surtout à l'époque du printemps, et que vous buvez le café au balcon, et que vous avez le bruit des oiseaux et l'odeur qui est très agréable, je vais vous dire, vous partez au travail, puisque moi, je commençais à 8h30, avec un bon moral déjà, c'était sympa. C'est difficile de ne pas aimer cet endroit comme on l'a connu. C'était formidable d'ailleurs.
Mes feuilles frémissent des messages venus de là-bas. Les arbres m'envoient leurs souffles invisibles. Des fragrances que seuls nous comprenons, des alertes douces mais pressantes. Le vert se retire, l'ombre disparaît, le silence des tronçonneuses approche. Dans ce souffle partagé, je devine la qualité de vie qui tissait l'entente entre les habitants, un parc qui unissait les copropriétaires et qui faisait naître le calme et le respect, là où le béton n'a pas encore parlé.
Ici, on est 32 copropriétaires. On s'entend bien, chaque fois qu'on se croise, on discute. Il y a beaucoup des collègues propriétaires. Et le 47 bis, c'est là où ils morflent le plus, puisque on leur a tout retiré, tous les arbres et tout ça. Donc.
Le vert, ce n'est pas qu'un décor. Il influence les gestes, le souffle, les liens entre voisins. Là où les arbres offrent leur ombre et leur présence, le bien-être se propage. Et des mains attentives se mettent à fleurir les trottoirs, à embellir les résidences, à créer du lien, simplement inspiré par la vie qui les entoure. La nature n'est pas muette, elle parle au cœur, elle façonne les comportements, et parfois elle transforme un simple espace partagé en communauté.
On a la chance d'avoir une amie qui est propriétaire, d'ailleurs elle est au-dessus de mon appartement, et elle adore la nature, elle aime les fleurs, et puis elle nous fait des belles choses. Elle ne demande rien en plus. C'est à nous de faire quelque chose pour elle, parce qu'elle est trop formidable. Et même au départ, on faisait le repas de la résidence, donc tout le monde amenait quelque chose, et on avait la chance, puisqu'on a juste en bas là, un petit endroit donc, où on pouvait se réunir et manger ensemble. C'était très 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 sympa.
Très sympa, oui. Jusqu'au jour où les murmures deviennent des moteurs, où les rumeurs prennent la forme de pelleteuses, et où la poésie se fait recouvrir par le ronron des camions. Les tronçonneuses ont remplacé le chant des oiseaux. Les klaxons ont pris le relais des mésanges. Et les petits déjeuners au parfum de printemps se sont mués en café serré, aromatisé au gaz d'échappement. Fini les tartines sous les feuilles. Bonjour les croissants au feu rouge. Une nouvelle gastronomie urbaine, sans doute. Moins de chlorophylle, plus de pots d'échappement.
Aujourd'hui, il y a 9 pavillons qui sont prévus avec une résidence qui est du côté de la rue du Maréchal Leclerc.
Écoutez la différence. Avec les arbres, sans les arbres. Avec les arbres, sans les arbres. Le petit déjeuner d'Alain n'a-t-il pas une saveur plus apaisante lorsqu'il a pour compagnon ses oiseaux, pour manteau ce rideau d'arbres et pour odeur l'humus encore humide de la rosée matinale? La vie était là, tout autour de lui. Elle transmettait à Alain une énergie pour toute sa journée de travail, une humeur légère pour un dimanche heureux. Aujourd'hui, quelque chose s'est cassé. Alain a réorganisé sa vie après avoir perdu ce qui lui était si cher.
J'ai vécu ici 38 ans avec les oiseaux, les arbres. J'étais pratiquement à la campagne. Aujourd'hui, ça change complètement. Et avec mon épouse, on a pris la décision de partir 3 mois par an, puisqu'on est à la retraite en Corse. Voilà, pour essayer de récupérer ce qu'on a perdu. Ça fait un peu de peine, ça fait un peu de peine parce que vous avez l'impression qu'on vous retire quelque chose. C'est humain, ça. Vous êtes habitué à un bien-être et on vous le retire. Il y a une gêne, il y a une gêne. Je vous ai parlé du bien-être, il y a une gêne personnelle. Mais pas que pour moi, hein. Je discute avec tous mes collègues et les gens de la résidence. Ça les embête aussi. Quoi.
Mais comment en arrive-t-on là? À une époque où l'on promet le zéro artificialisation nette, où les lois fleurissent comme bourgeons de bonne conscience, où l'on jure de rafraîchir les villes plutôt que de les cuire à feu doux. Les communes ne disposent-elles pas de plans locaux d'urbanisme censés protéger le vivant plutôt que de remplacer par du bitume? Et voici la pirouette du destin. Il se trouve qu'Olivier Maupu, l'urbaniste, qui s'indignait d'entendre un maire regarder le vivant comme on regarde un tas d'or, fait partie de celles et ceux qui écrivent aujourd'hui les plans locaux d'urbanisme. Autrement dit, s'il est quelqu'un à même d'éclairer ce que le PLU de Chartres fait aux arbres, au sol et au paysage, c'est bien lui.
Un plan local d'urbanisme, c'est un document d'urbanisme qui permet à la fois de planifier le territoire et d'associer sur chacune des zones du territoire planifié des règles d'urbanisme, des règles du jeu en matière de hauteur des constructions, d'implantation des constructions, d'emprise au sol et de préservation des jardins, de la pleine terre, des arbres, etc. On pourrait simplement dire que le PLU de Chartres est un document ancien qui a été élaboré avec des règles très permissives en matière de constructibilité, c'est-à-dire que globalement, on peut construire partout de manière assez haute des immeubles, on peut densifier, bétonner quasiment toute la ville avec des règles qui sont assez peu différenciées d'un quartier à l'autre et qui en fait donnent toutes les cartes pour les promoteurs globalement sur l'ensemble des quartiers. Alors le PLU de Chartres, il a une particularité par rapport à beaucoup de PLU, voire tous les autres PLU français, c'est qu'ils ne fixent pas de véritables règles de pleine terre. C'est-à-dire que, en principe, dans un plan local d'urbanisme, en fonction des différentes zones, de centralité, de faubourg, économique, pavillonnaire, on a des règles qui fixent, par exemple, 30% ou 40% d'espace vert de pleine terre. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur un terrain de 1000 m², si on a une règle de 40% d'espace vert de pleine terre, on doit garder 400 m² de vrai jardin. Donc, du vrai jardin, c'est là où poussent des grands arbres, où on peut avoir un potager, où on peut avoir des haies par rapport aux riverains, etc. Le PLU de Chartres, lui, il fixe des normes de pleine terre, mais la définition de la pleine terre qui est fixée dans le PLU de Chartres, c'est 40 cm de terre. Autrement dit, un saupoudrage et pas de la véritable pleine terre, où il peut y avoir vraiment une végétation normale qui pousse. Dans 40 cm de terre, pour que ça pousse, il faut arroser constamment. Donc en fait, c'est de la pleine terre artificielle. Alors c'est effectivement catastrophique en matière de préservation de la ressource en eau, c'est catastrophique aussi en matière de biodiversité, puisque dans 40 cm de terre, on ne fait pas pousser la même chose que dans des vrais jardins. On ne peut pas avoir de grands arbres, par exemple, avec des vrais systèmes racinaires, des équilibres biodynamiques, bioécologiques. Donc on a un PLU qui est artificiel dans le sens où, en fait, il permet de bétonner quasiment toute la ville, puisque sous ces 40 cm de terre, on peut avoir évidemment des parkings souterrains et on a énormément de projets. Il suffit d'aller rue de Sours ou sur le secteur des faubourgs en général qui ont bétonné quasiment l'ensemble de la parcelle au profit d'un projet souvent de collectif assez haut, très dense, où les bâtiments sont très proches les uns des autres. Donc on perd vraiment en qualité de vie à cause de ce plan local d'urbanisme qui a été donc voté par l'actuelle équipe municipale.
Le parc, avant les travaux, on aurait dit un très très grand jardin avec des arbres, des fleurs, c'était agréable. Si je suis ici depuis plus de 38 ans, c'est que avec mon épouse, on se plaisait énormément. Pourtant, on est du sud, on est arrivé en Beauce et puis on s'est fait vraiment plaisir. Le maire va nous donner des arbres qu'on va rajouter, donc un ou deux arbres qu'on va rajouter aussi. Donc il nous a promis ça donc, au repas des seniors. Donc on s'est proposé d'en avoir un, donc il va nous le donner gratuitement.
En fait, le maire, il évoque souvent que son action municipale, politique, vise à désartificialiser les sols et de planter des arbres, 1000 arbres, etc. Mais en fait, c'est purement et simplement du greenwashing. Il plante des arbres dans des prairies, là où il y a déjà des espaces verts, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour rafraîchir la ville, pour apporter de la biodiversité ailleurs. D'ailleurs, ça peut même entraîner des pertes de biodiversité dans certaines prairies. Ça, il ne le dira jamais. Et parallèlement, on a des chiffres officiels de l'État, qui sont d'ailleurs consultables sur le site Mondiag Artificialisation, qui font état de 63 hectares artificialisés en 10 ans, uniquement pour la ville de Chartres. 63 hectares, c'est à peu près 90 terrains de football. De artificialiser, ça sous-entend que les sols auparavant étaient vivants, et après les projets, différents projets, on peut prendre l'Iliade, on peut prendre certains projets qui ont été réalisés, beaucoup de projets immobiliers, y compris des projets type des quartiers nouveaux, comme la Roseraie. On passe d'un sol vivant, agricole ou naturel, à un sol artificialisé, bétonné. Donc un total sur ces 10 dernières années de 63 hectares, ce qui est parmi les records dans les villes françaises d'artificialisation.
Ce qui est dommage dans une belle ville comme Chartres, c'est que chaque fois qu'il y a un espace vert, on a des promoteurs qui arrivent et puis qui mettent quelque chose dessus. Donc là, je vous ai parlé des maisons, je vous ai parlé des résidences. Deux fois, c'est des magasins. Et puis malheureusement, on a des magasins qui sont construits et puis ils ont fait faillite. Mais le béton, il reste, malheureusement, quoi.
Il faut savoir que sur ces opérations-là, en fait, les sociétés d'économie mixte qui sont parallèles au pouvoir local, qui sont d'ailleurs dirigées par l'adjoint aux finances et la première adjointe de la ville de Chartres, sont au service de cette politique de bétonisation de la ville. Sur ces projets-là, il y a un accord qui est passé entre CSPL et les promoteurs privés, et on appelle ça une copromotion immobilière. Donc on a des capitaux qui sont injectés par Chartres Développement Immobilier, en l'occurrence, et des capitaux injectés par le promoteur à hauteur de 40% pour la société d'économie mixte, 60% pour la société privée, hein, le promoteur. Et donc, il y a un intérêt de la part des SPL et des SEM de produire un maximum de logements, au mépris de la qualité, souvent, puisque l'idée, c'est surtout de produire vite, de produire partout où on peut. Et donc, en fait, la ville a été, entre guillemets, offerte aux promoteurs de manière à produire un maximum de logements, puisque quasiment toutes les opérations sont du logement pur. Voilà. Et parallèlement, même si c'est un sujet annexe, la vacance en logement sur la ville de Chartres augmente, puisqu'on est passé d'environ 1000 logements vacants il y a une dizaine d'années à 2500 logements vacants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup de logements, mais beaucoup de logements ne sont pas habités. Ce qui interroge beaucoup, c'est la raison pour laquelle des grands promoteurs immobiliers nationaux, Bouygues Immobilier et d'autres, font appel à Chartres Développement Immobilier pour coproduire des opérations immobilières. Ces sociétés-là ont les reins solides, elles ont une envergure, ils ont des moyens, etc. Et les seuls arguments qui sont donnés par la commune, la mairie de Chartres, la ville, c'est de dire qu'on a besoin de Chartres Développement Immobilier, donc de cette société d'économie mixte, parce qu'on a une bonne connaissance de l'archéologie et des besoins en logements locaux. Mais je veux dire, c'est pareil partout. On n'a pas besoin. Ça n'apporte rien en matière de qualité des logements.
On m'a dit depuis des années et des années que aurait peut-être quelque chose, mais ça fait plus de 30 ans qu'on me dit ça. Et là, quand on a vu arriver les grues, les tracteurs, on a dit ça y est, on nous enlève une belle chose de la vie.
Nous habitons tout à côté des Grands Prés. C'est une zone magnifique où tous les week-ends vous avez des enfants à vélo. C'est une petite zone de village. La maison que nous habitons est en face de l'Eure et toutes les maisons de la rue sont en face de l'Eure et ont derrière elles une falaise qui fait 20 à 30 mètres suivant les maisons. Dans ces falaises, vous avez de vieilles marnières qui ont été creusées, parfois des marnières qui font 15, 20, 30 mètres, parfois des marnières qui font jusqu'à 75 mètres de profondeur. Tout au long de la rue qui borde l'Eure, une série de cavités qui sont l'habitat de chauves-souris protégées au niveau international. Dans la marnière la plus grande de la rue, nous n'avons pas pu entrer malheureusement, mais nous pensons avec l'OSB que c'est la plus grande zone de vie de ces chiroptères protégés. En 1999, la maison voisine de la nôtre a subi quelques dommages et à cette occasion, le propriétaire a tenté de vendre à des promoteurs l'ensemble de la maison et du terrain qu'il avait. Il leur a vendu la maison en octobre 2019. Il est décédé peu après et à partir de 2020, en février, nous avons subi une décision de la mairie de donner le droit de détruire la magnifique demeure du 19e siècle à côté de la nôtre et ensuite de construire 72 appartements sur cette zone. À partir de là, nous avons été en justice administrative et le déroulé s'est fait jusqu'à la cour d'appel à l'été 2024.
Je suis Monique et j'habite 20 impasse des Saumons à Chartres, la petite impasse juste en face de la rue des Petites Filles Dieu. Et le truc qui m'ennuie le plus, c'est le nombre de constructions qui se passent sur Chartres. C'est épouvantable. Le béton, il y a de moins en moins d'arbres et surtout, il y a de plus en plus de voitures. On est dans un lieu vert et il faudrait que ça reste vert, avec des prairies, des arbres et arrêter toutes ces résidences qui entourent Chartres et qui se banalisent partout. Ce qui m'ennuie le plus, c'est la destruction d'une maison remplacée par énormément d'appartements. Et ça nous reste... Vaudrait mieux les remplacer par des petites maisons, quelque chose d'habitable, quelque chose d'humain.
Nous avons été en justice parce que personne ne pouvait imaginer que cette zone serait constructible puisqu'elle était protégée par le flux des avions de l'aéroport. En fait, la mairie a fait modifier le plan de vol des avions lors d'une décision qui a été prise en accord avec le préfet et qui a changé la loi qui permettait à ce moment-là de construire. À partir de là, nous avons été en justice pour faire annuler le permis de construire parce que tous les dangers qu'on peut imaginer dans une zone pareille sont présents. Vous avez d'abord une marnière immense qui fait 75 mètres par 45, ce qui n'existe nulle part à Chartres. Vous avez une falaise de 27 mètres et il faudrait éviter de construire à côté de la falaise. Le permis de construire leur permet de construire au ras de la falaise. Vous avez des eaux souterraines qui passent, et c'est très connu, sous la rue. Et malheureusement, le maire préfère laisser le permis de construire malgré la rivière souterraine où il compte faire des parkings. Il est exact que quand nous avons appris qu'il y avait un permis de construire le 23 janvier 2020, nous avons demandé et obtenu un rendez-vous à la mairie avec notre ami Daniel, le voisin ici. Le maire s'est borné à nous dire qu'à son sens, il n'y avait pas de marnière à cet endroit-là. Or, il était clair qu'il y avait une carrière de marne, puisque les documents de la mairie ont été remis à la DDT pour expliquer que là se trouvait la plus grande cavité de Chartres. Malheureusement, le maire n'a pas changé d'avis, il a toujours dit qu'il n'y avait pas de problème de marnière à cet endroit-là, ce qui est exact. Ça peut s'avérer exact dans le sens qu'il pouvait imposer, et c'est ce qu'il a fait, il faut lui reconnaître cela, il demandait au promoteur de boucher la marnière avec du béton maigre, comme on dit, moins cher. Mais à ce moment-là, l'affaire ne plaisait plus trop au promoteur parce que le coût du béton à mettre dans la marnière était invraisemblable, dépassait le million.
Ce qui me navre, et j'ai beaucoup de gens qui partagent mes idées, c'est la défiguration de l'environnement, notamment dans ce quartier des Petites Filles Dieu et ailleurs aussi, que les immeubles en béton cassent l'harmonie des quartiers. Par ailleurs, je pense que, sans m'accrocher au passé, parce qu'il faut évoluer, mais l'évolution doit être raisonnable et raisonnée.
Là aussi, ça ne plaît pas aux habitants. Je me rappelle ce petit livre cartonné soigneusement édité par la mairie en 2023 et distribué gratuitement à tous les chartrins et chartraines. Il avait pour titre « Naturellement Chartres ». Nous avons soif de terre, de ciel et d'eau. Nous avons soif de nature et en même temps de beau. Nous avons soif de ce bien-être qu'elle nous apporte et de cet apaisement qu'il nous procure. Cela n'est pas nouveau, mais dans notre désir collectif de la ville et de tout son confort, nous aurions pu oublier jusqu'au chant des oiseaux. Ceux qui fuient les mégalopoles peuvent au contraire goûter tout le charme d'une ville moyenne comme la nôtre. Il faut bien admettre que côté nature, apaisement, terre, ciel et eau, on repassera.
Un PLU bien fait n'aurait jamais permis la construction d'un immeuble de presque 40 logements rue des Petites Filles Dieu. C'est un projet qui est en cours, c'est un projet qui est complètement lamentable dans une rue composée de maisons individuelles. Cette rue, c'est un vrai village, c'est avec des prairies de l'autre côté, on est à la limite du secteur inondable, à ras d'un coteau avec des marnières importantes. Accepter un projet dans ce secteur-là, ça prouve bien que le PLU a été très mal fait. Mais un PLU mal fait, c'est d'abord un PLU qui, politiquement, veut développer, veut construire partout, Donc c'est un choix politique, le PLU, c'est un choix politique de la municipalité de la ville de Chartres qui a déroulé le tapis rouge aux promoteurs, la preuve même dans des quartiers comme la rue des Petites Filles Dieu qui n'a aucun moyen en matière de réseau, de développement de voirie. Il n'y a aucun intérêt de construire un immeuble collectif dans ce secteur-là. On est loin des polarités, loin des commerces, loin des écoles. C'est simplement lamentable.
Voilà, voilà au fait du sort réservé à plusieurs de mes frères et sœurs d'écorce à Chartres. Mais avant de me taire, je voudrais vous murmurer une dernière histoire, la plus intime, la plus fragile, la mienne, si vous acceptez de revenir m'écouter.